constate qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes que les Européens et les pro-européens en Suisse avaient sous-estimés. C'est tout ce problème de l'endettement, c'est tout ce problème de la monnaie unique, pour laquelle au départ, moi, j'étais plutôt favorable, mais on est obligé de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir une monnaie unique sans avoir une politique économique, voire une politique fiscale commune. Et là, ça va encore prendre quelques temps. J'entendais ce matin encore que l'Union européenne va devoir financer 110 milliards pour la Grèce, Portugal, Espagne, Italie et d'autres. Donc là, ils sont devant des grandes difficultés. Et là, pour le moment, on n'a encore pas abordé le problème du financement des retraites, qui est aussi une bombe qui est prête à exploser dans la plupart des pays.
Donc on pourrait dire quelque part que l'Europe, pour le moment, ne fait plus rêver.
Moi, elle ne m'a jamais fait rêver. Moi, j'ai toujours été pragmatique en disant, comme industriel, bon, c'est notre partenaire principal. On est aussi un de leurs partenaires importants, donc on s'entend sur un certain nombre de dossiers où les intérêts sont communs. Mais bien évidemment, au niveau institutionnel, de faire partie de l'Union européenne, à mon avis, ça n'a jamais été une réflexion pour moi, parce que ça signifierait l'abandon de notre système démocratique. Personne ne souhaite la discussion là-dessus, en tout cas avant les élections.
On a donc poursuivi ces dernières années sur la voie choisie, c'est-à-dire la voie des bilatérales. Qu'est-ce que vous tireriez comme bilan à l'heure actuelle ?
Bon, première chose, disons, je crois qu'il n'y a pas de dossier urgent qu'il faut absolument traiter. Et aujourd'hui, il y a ce troisième paquet bilatéral qui était souhaité par Mme Calmiret, peut-être M. Schneiderman, où là, naturellement, pour moi, il y a un point qui est absolument rédhibitoire. C'est l'affaire de la reprise automatique du droit européen. Alors, les pro-européens vous disent toujours, mais on reprend 80%. C'est possible, on reprend, c'est vrai. On a des dossiers où ça ne nous pose pas de problème. Mais sur ceux qu'on ne reprend pas, ou ceux qui nous posent des problèmes, on peut encore faire un référendum, on peut encore demander au peuple de se prononcer, on peut encore dire non. Tandis que le jour où on doit prendre automatiquement, reprendre le droit, ça ne va pas.
L'Union démocratique du centre, on peut le dire, est assez tiède face à l'Union européenne, souvent. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans le système tel qu'il se présente actuellement ?
C'est cette administration européenne, déjà, qui fait qu'on délègue à Bruxelles la plupart de nos compétences. Et fondamentalement, c'est qu'une adhésion à l'Union européenne signifie une perte de notre neutralité, de nos libertés et la suppression totale de notre système démocratie directe.
Un problème aussi pour vous, peut-être, c'est la libre circulation des personnes.
Alors, la libre circulation, je l'avais soutenue à l'époque. Et c'est vrai qu'au niveau de l'économie, un pas était nécessaire. Maintenant, on se rend compte quand même qu'elle pose un certain nombre de problèmes. Il y a eu beaucoup plus d'arrivées que ce qu'on avait prévu. Contrairement à ce que disent les rapports, il y a quand même une part importante de gens non qualifiés. Il y a un système de regroupement familial qui est beaucoup trop facile. Alors, on a loupé le coche, on n'a pas renégocié ou demandé la mise en vigueur des clauses de sauvegarde. Il y a une année, c'était possible. Aujourd'hui, j'ai fait une motion au mois de décembre en demandant une renégociation pour améliorer ce qui avait été un petit peu peut-être sous-estimé à l'époque. Mais le problème existe. Alors la gauche voudrait le résoudre par des conditions cadres et des obligations et des contrats collectifs, ce qu'on ne veut pas. Moi, ce que je crains surtout, c'est que dans les cantons qui sont très touchés par ce phénomène, Genève, Tessin, on est tout à coup la Lega et le MCG qui arrivent avec une initiative qui sera alors totalement extrême. Et notre proposition, d'après le texte qui n'est encore pas définitif pour notre initiative, elle est très favorable à l'économie. On adopte simplement un système comme il est pratiqué en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Australie, où on décide, on a besoin de gens dans tel secteur et on fait un système de points. Les gens qui répondent aux critères, ils pourront toujours venir en Suisse. Mais on maîtrisera, on n'aura plus une libre circulation. C'est la Suisse qui définira les critères et les besoins.
Dans les autres partis de droite, il y a toujours le même argument qui revient quand on parle de libre circulation. On nous dit, écoutez, c'est grâce à la libre circulation que la Suisse connaît une telle croissance, en tout cas, ou une telle croissance qu'elle est plutôt qu'elle est moins touchée que beaucoup d'autres pays par la crise. Qu'est-ce que vous répondez à cette argumentation?
C'est vrai que certaines branches ont pu recruter du monde, mais si on avait adopté une politique migratoire dont on restait maître, on aurait fait venir la même chose, les spécialistes dont on a besoin, et on aurait même peut-être eu un avantage, on aurait pu faire venir des spécialistes de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, ce qui est aujourd'hui beaucoup plus compliqué.
Toujours pour parler de cette libre circulation, on parle souvent des étrangers qui viennent en Suisse, mais il ne faut pas oublier aussi que ça permet aux Suisses d'aller s'installer librement en France, en Allemagne, peu importe où. Est-ce que ce n'est pas aussi un autre avantage?
C'est vrai qu'il y a cette possibilité, mais bon, est-ce que avant la libre circulation, il y avait quand même déjà plusieurs centaines de milliers de Suisses qui étaient installés en France ou en Allemagne? J'ai encore été parlé devant les Suisses de France l'autre jour à Bordeaux. Je ne sais pas quelle est la part qui est allée après la libre circulation, mais je crois que là, je vous dis, le fond de ma pensée, c'est qu'on ne doit pas dénoncer cet accord, mais qu'on doit renégocier et corriger les choses qui doivent être corrigées. Il y a un certain nombre de points qui préoccupent la population et qu'il faut corriger.
Alors, dernière question maintenant. En vue de la prochaine législature, qu'est-ce que vous préconisez à l'UDC en matière de politique européenne? En se contentant de ce qu'on a, on fait rien, on est plus dur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, on continue dans la voie bilatérale, mais on fait un catalogue des points où on aurait un intérêt à négocier. On essaye de faire un catalogue des points où on sait que l'Union européenne a négocié, mais ce catalogue, on ne le met pas sur la place publique. On le garde bien tranquillement dans un bureau à Berne. Et chaque fois qu'il y a des possibilités, parce qu'on se rencontre quand même régulièrement, on essaye d'intervenir pour qu'on ait des accords qui soient équilibrés. Moi, comme chef d'entreprise, quand je vais négocier chez un client qui me demande des baisses de prix, qui me demande toutes sortes d'avantages, ben, j'essaye toujours aussi d'arriver avec mes demandes qui vont me permettre de faire baisser mes coûts de production ou bien de régler des histoires anciennes et tout. Ce qui sera aussi déterminant, probablement relativement difficile, c'est toute cette politique fiscale. Je ne sais pas si on va aboutir avec cet impôt à la source avec l'Allemagne et l'Angleterre. On nous promet ça depuis longtemps. Bon, pour le moment, dans le domaine de cette fiscalité, il n'y a encore pas de vraie politique européenne. On négocie avec chaque pays séparément, ce qui est un avantage. Mais ça sera certainement un dossier chaud, parce que la place financière suisse est quand même importante.
Juste un point de détail. Négocier, oui, peut-être, mais c'est de plus en plus dur, parce que l'Europe, c'est maintenant 27 parties, c'est plus large, il y a plus d'opinions. Et puis aussi, ils sont devenus un petit peu plus durs, par exemple, comme vous le disiez avant, en matière fiscale.
Oui, il y a toujours encore d'autres portes de sortie. J'ai lu l'autre jour dans un journal qu'ils étaient encore en train de préparer une nouvelle demande pour leur fonds de solidarité ou d'aide aux nouveaux membres, etc. Donc, non, mais que les négociations soient faciles, ça je ne l'ai jamais dit et je ne le dirai jamais. Mais il ne faut pas aller à Bruxelles avec profil bas et puis envoyer des mendiants. Il faut envoyer des gens qui sont des bons négociateurs et qui connaissent les points forts et les points faibles de l'Union européenne pour essayer de profiter de ces points faibles pour faire passer nos arguments.